On a appris cette semaine qu'ArcelorMittal Exploitation Minière Canada a été condamné cette semaine par la Cour du Québec à payer plus de 14 400 000 $ en amende pour avoir enfreint la loi sur les pêches du Canada. Et pour nous donner les détails de ce dossier, je reçois aujourd'hui le porte-parole d'Environnement Canada, qui est le directeur régional à la direction de l'application de la loi en environnement. Vincent Pretty, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Seguin.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Vous?
Oui, ça va, merci. D'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le verdict là, de manière plus détaillée. Ce sont les compagnies ArcelorMittal Canada et aussi une autre entreprise là, qui sont visées par le résultat de cette enquête?
Oui, c'est exact. Dans le fond, pour reprendre un petit peu de recul, juste pour qu'on comprenne bien, la compagnie qui s'appelle ArcelorMittal Exploitation Minière Canada, SENC, dans le fond, c'est une société en nom collectif et ce genre d'entreprise-là ne peut pas être poursuivi. Donc, les personnes qui peuvent être poursuivies, ce sont seulement les personnes morales ou physiques. Il y a deux compagnies qui ont été visées par l'enquête. Donc, on parle bien ici d'ArcelorMittal Canada et la compagnie à numéro 7623704 Canada Inc.
Et dans le fond, le verdict par rapport à ça, en fait, c'est que les deux entreprises ont enfreint la loi sur la pêche et aussi déréglé à certains règlements là, qui étaient en place?
Oui, c'est exact. Là. En tout et pour tout, la compagnie ArcelorMittal Canada Inc. a été condamnée le 15 octobre 2021 à 93 chefs d'accusation, entre autres pour, puis on pourra, si vous voulez, que je revienne plus sur les détails, mais entre autres pour des rejets de substances nocives dans des eaux poissonneuses et d'autres infractions, alors que la compagnie à numéro, elle, a été condamnée à 5 chefs d'accusation.
Et si on revient sur l'enquête, à quand est-ce que ça remonte? Là, comment ça s'est déroulé?
Dans le fond, l'enquête a commencé, mais je dirais que je vais remonter un petit peu en amont de l'enquête, parce que c'est quand même un peu compliqué comme dossier, puis ça s'est élaboré sur plusieurs années. Donc, je vous dirais que le 12 novembre 2012, ArcelorMittal a avisé le Centre national des urgences environnementales d'environnement et changement climatique Canada en raison d'un bris de digue dans un de ses bassins de sédimentation. Donc, ils ont notifié le ministère. Donc, il y a eu des vérifications qui ont été faites de conformité, etc. Et c'est suite à ça qu'une enquête a été ouverte le 6 mars 2013 en vertu de la loi sur les pêches. Donc, au cours de l'enquête, il y a eu également constat de 33 rejets irréguliers. Donc, on parle ici de rejets non autorisés, additionnels, de substances nocives qui sont survenues dans des eaux où vivent des poissons. Tout ça, ça s'est passé entre le 25 mai 2011 et le 14 mai 2013. Donc, en violation au paragraphe 36.3 de la loi sur les pêches. L'information qui est relative à la majorité de ces rejets n'avait pas été notifiée à Environnement et changement climatique comme prévu par la loi. Enfin, l'enquête a révélé qu'ArcelorMittal Canada Inc. ne déclarait pas tous les résultats des sets de suivi de ces effluents tels qu'exigés par le règlement. Et la compagnie a donc soustrait à la connaissance des autorités plusieurs événements de rejets irréguliers, non autorisés, de substances nocives. Par conséquent, environnement et changement climatique ne pouvaient avoir qu'un portrait inexact et dénaturé de la situation. Et ArcelorMittal Canada Inc. a donc été déclaré coupable d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses aux agents d'environnement et changement climatique Canada en contravention au paragraphe 63.1 de la loi sur les pêches.
Et si on résume un peu, là, je comprends bien, il y a trois choses à retenir parmi les éléments en fait là-dedans là, que vous avez nommés. On parle de rejets irréguliers non autorisés, là, de substances nocives dans des lacs et des cours d'eau, de fausses déclarations concernant les résultats des essais de suivi, et alors que c'est exigé en fait par le règlement, et aussi d'avoir omis de faire des essais lors de leur rejet, si je comprends bien, c'est, ça résume?
Oui, ça résume très bien. Là, donc, c'est à peu près les quatre volets, donc des rejets irréguliers, des rejets donc non autorisés en vertu de l'article 36.3 de la loi sur les pêches. Aussi, été déclaré pour des chefs d'accusation pour avoir omis de produire des rapports trimestriels dans les délais qui sont prescrits, tels qu'il est prescrit au règlement sur le règlement sur les effluents de mines de métaux, au paragraphe 21.1. A été aussi déclaré à deux chefs d'accusation pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses, comme je l'ai dit, en vertu du paragraphe 63.1 de la loi sur les pêches, et a été également déclaré coupable de 27 chefs d'accusation pour avoir omis d'effectuer des essais de détermination de la létalité aiguë et 27 chefs d'accusation additionnels pour avoir omis d'effectuer des essais de suivi au BSS sur le crustacé, le Daphnia magnia, lors des rejets irréguliers.
C'est quand même une grosse enquête de ce que je comprends. Là, ça a débuté en 2013. Là, il y a un verdict qui est tombé en 2021. Le constat, en fait, le côté amende a été dévoilé cette semaine. Donc, j'imagine que ça a pris quand même beaucoup d'années là, avant de pouvoir constater tout ça et faire sortir publiquement ces différents résultats.
Absolument. Et c'est quand même normal pour ce genre de dossier qui est particulièrement complexe. Je vous dirais que l'enquête a été ouverte en mars 2013. Elle englobait des infractions qui ont été commises, comme j'ai dit, entre mai 2011 et mai 2013. Mais par la suite, les chefs d'accusation, dans le fond, l'enquête s'est déroulée sur plusieurs années et les chefs d'accusation, eux, ont été déposés en juillet 2017. Par la suite, là, c'est le processus un peu judiciaire là, qui a amené, dans le fond, à la poursuite qui, dans le fond, relève du service des poursuites pénales du Canada. Et le procès, donc, a débuté en 2020, puis s'est terminé, comme je vous dis, avec un jugement de culpabilité en octobre 2021.
Et là, maintenant, on apprend, en fait, le montant de l'amende qu'ArcelorMittal devra payer. Là, évidemment, il y a d'autres étapes judiciaires qui s'en viennent là-dedans. En fait, ArcelorMittal porte en appel cette condamnation-là. J'imagine que vous allez continuer de suivre ce dossier-là?
Oh, absolument. Là, en ce moment, l'étape qu'on est rendue, c'est justement la détermination de la peine qui a fait l'objet de discussions entre le service des poursuites pénales du Canada et les compagnies qui ont été condamnées. C'est pour ça que l'entente a été entérinée par la Cour le 10 juin pour un montant total de 15 millions. Donc, on parle de 14,4 millions pour ArcelorMittal Canada Inc. et de 600 000 pour la compagnie à numéro. Par la suite, on va attendre de voir comment les choses se passent pour l'appel. Dépendamment des résultats de l'appel, ben ça pourra avoir un impact sur la peine qui a été entérinée ou pas, dépendamment de ce que la Cour décidera rendu là.
Et j'aimerais, M. Prêté, qu'on porte peut-être avoir un petit point de précision, en fait, sur les deux entreprises, là, parce que quand vous nous avez dit, en fait, les résultats de l'enquête, on parlait beaucoup, on a mentionné ArcelorMittal Canada Inc. Est-ce que ça incluait également, ou en tout ou en partie, en fait, la compagnie à numéro aussi, ou c'est d'autres résultats, ou c'est le tout est englobé, juste pour préciser?
Ben, dans le fond, non, c'est deux compagnies distinctes. ArcelorMittal Canada Inc. et la compagnie à numéro, dans le fond, sont les deux actionnaires ou les deux exploitants ou les deux propriétaires là, de l'enveloppe qui s'appelle ArcelorMittal Exploitation Minière Canada SENC. Donc, ce sont les deux compagnies ensemble et quand on fait une enquête, quand on se retrouve dans une situation comme ça, on doit déterminer la responsabilité de chacune des compagnies face aux chefs d'accusation qui sont déposés. Donc, c'est normal que ce ne soit pas nécessairement les deux compagnies qui soient condamnées à toutes les mêmes chefs d'accusation parce que ça dépend, ça reflète vraiment beaucoup plus leurs responsabilités individuelles.
Mais ça concerne les mêmes événements, les mêmes constats que vous avez faits dans votre enquête, donc les rejets et tout ça.
Oui, absolument.
Parfait. Donc, merci pour cette précision-là. Comme vous l'avez dit, vous allez continuer de suivre ce dossier-là. J'aimerais qu'on parle un peu des méthodes de travail. On nous reste encore quelques minutes, là. Des méthodes de travail qui sont utilisées quand il y a des enquêtes de grosses haleines comme ça. ArcelorMittal, c'est une très, très grosse entreprise minière à Fermont. C'est un peu ce qui nous fait vivre ici dans la région. Donc, comment ça se passe un peu en arrière-plan, si c'est possible d'aller, peut-être pas dans les gros détails, mais juste de mentionner comment ça se fait en arrière-plan du côté d'Environnement Canada?
Oui, absolument. Ben, encore une fois, je vais prendre un portrait plus global pour permettre à vos auditeurs de bien comprendre comment l'application de la loi fonctionne à Environnement et Changement climatique Canada. Nos agents, quand on a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait y avoir infraction, donc ça dépend de l'information qu'on a, vont faire une vérification de conformité. Donc, quand on fait la vérification de la conformité, l'objectif est de s'assurer est-ce que les événements qu'on a pris connaissance pourrait représenter des infractions à la loi sur les pêches ou encore une fois la loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui sont les deux lois principales là, que nous appliquons et tous les règlements qui en découlent. Quand un agent identifie, dans le fond, une infraction, il va se rapporter à la politique d'observation et d'application de la loi qui lui permet, entre autres, d'utiliser différents outils, on appelle ça des mesures d'application de la loi, pour décider quel est le meilleur chemin pour aider la compagnie à revenir conforme aux lois et règlements appropriés. Donc, on parle ici, quand on parle de mesures d'application de la loi, ça peut être une simple lettre d'avertissement, Il y a des pénalités administratives monétaires. Il y a également des directives ou des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement. Mais ultimement, la mesure la plus loin, on va dire la plus contraignante, c'est la poursuite judiciaire. Et donc, quand l'agent est rendu à croire que la gravité, puis en fonction de plusieurs facteurs qu'il va le prendre en considération, que la poursuite judiciaire est la mesure appropriée dans la situation, à ce moment-là, c'est là qu'on va initier une enquête. Et à ce moment-là, les pouvoirs des agents changent beaucoup parce qu'on a des agents qui vont faire essentiellement des inspections. Donc, ils ont beaucoup de pouvoirs sous la loi canadienne de protection de l'environnement ou la loi sur les pêches. Parce que l'objectif est ultimement de ramener la compagnie à la conformité sans nécessairement passer par un procès, tout ça. À partir du moment où l'idée, c'est d'effectuer une poursuite judiciaire, donc une enquête au préalable, à ce moment-là, là, il faut s'assurer que le travail est fait en respectant la Charte des droits et libertés et tout le contexte qui va au niveau de la collecte de preuves, donc avec mandat de perquisition ou d'autres outils. Une fois qu'un dossier d'enquête est ouvert, l'approche est très, très, très différente sur le travail des agents qui, ultimement, va mener à présenter à un procureur du Service des poursuites pénales du Canada, dans le fond, la preuve qui va avoir été récoltée. Et par la suite, le procureur pourra décider s'il accepte ou il autorise le dépôt des chefs d'accusation. Et dans le cas où il accepte que les dépôts d'accusation sont déposés, à ce moment-là, c'est le service des poursuites pénales qui reprend la balle et ça devient donc leur dossier. Et là, c'est à eux de judiciariser le dossier à travers les différents outils qu'ils ont.
Très intéressant d'en apprendre davantage sur comment ça fonctionne, les enquêtes comme ça en arrière-plan. Et on vous remercie beaucoup, Monsieur Préty, d'avoir été là pour nous parler du dossier d'ArcelorMittal en tant que tel. Ça nous aide à clarifier un peu les choses. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter avant qu'on complète?
Bien, j'aimerais juste mentionner là, que pour les Canadiens et les Canadiennes, on sait bien que la valeur de l'environnement est importante. Et c'est un peu ce qui nous motive à tous les jours au niveau de la direction de l'application de la loi, des agents, tout ça, de mettre tout en œuvre pour veiller à ce que la population et les entreprises respectent les lois et les règlements qui visent à protéger le milieu naturel. Je dirais que c'est vraiment notre raison d'être et je pense qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et le cas du dossier présentement, ArcelorMittal, je pense que c'est un très bel exemple de cela.
Monsieur Vincent Préty, vous êtes le directeur régional à la direction de l'application de la loi en environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour clarifier ce dossier. Puis on vous souhaite une belle fin de journée.
Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée vous aussi.
Ce reportage vous a été présenté par l'initiative du journalisme local.